Alors, si vous voulez vous lever, on va lire les quatre premiers versets du chapitre 21 de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 4. Puis je vis un ciel, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Je vais vous asseoir. Alors, j'ai intitulé tout simplement le sermon d'aujourd'hui, Le nouvel habitat de Dieu avec les hommes. Alors, on va regarder trois points à l'intérieur de notre brève étude. On va voir que le Seigneur avait déjà promis, prophétisé, qu'il permettrait qu'un jour il y ait un nouvel environnement. Donc, du nouveau ciel, une nouvelle terre, c'est vraiment tout est nouveau. Donc, un nouvel environnement. Dans le verset 2 et 3, on va voir que le Seigneur va permettre aussi un nouvel émerveillement. Donc, on va s'émerveiller devant tout ce que le Seigneur va permettre qui arrive. On va regarder les choses nouvelles et on va constater aussi l'ensemble des nouvelles circonstances qu'il a placées devant nous. Et on va être émerveillé. Et la troisième fois qu'on va regarder, c'est le verset 4. Et il va y avoir aussi un nouvel épanouissement. Donc, quand on n'a plus de problèmes, disons que vous avez une multitude de problèmes, puis un en arrière de l'autre, ils se règlent tous. Vous allez vous épanouir. L'être humain, quand il n'y a pas trop de problèmes, puis quand il est béni, puis là, la présence divine va être avec lui, fait qu'il va être comme une fleur. Une fleur au soleil, ça s'épanouit. Et un élu, quand il est rendu au ciel, il s'épanouit aussi. Oui, amen. On sait que Satan avait fait beaucoup d'œuvres sur la terre, des œuvres mauvaises depuis la chute. Il avait permis l'entrée du péché dans la vie des hommes. Et tout cela a eu des conséquences presque incommensurables. On ne peut presque pas imaginer la profondeur des douleurs que le Seigneur a permis, qui rentrent dans la vie des hommes à cause du péché. Les guerres, les maladies, les douleurs, les cris, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Alors le malin avait amené beaucoup de choses sur la terre, mais le Seigneur aussi avait fait des promesses. Alors le Seigneur vient les accomplir maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur, avec les œuvres du malin, selon ce que les Écritures nous disent? Il a dit, Babylone la Grande, c'était une œuvre mauvaise. Donc, on a vu dans les chapitres précédents, dans les sermons précédents, qu'il avait détruit Babylone la Grande. Il avait aussi détruit les personnages qui appartiennent à Satan, donc l'Antichrist lui-même, le faux prophète et Satan lui-même, qu'on appelle le dragon. Ils avaient pris toutes les toits, on l'a vu dans le chapitre précédent. Ils ont pris, ils ont jugé et jeté vivant dans le lac de feu et de soufre pour l'éternité. Autre chose qu'il avait fait, dans le dernier sermon qu'on avait vu, il restait un ennemi à vaincre, et c'était la mort elle-même. À cause, la mort elle-même, autrement dit, les hommes continuaient de mourir à cause du péché d'Adam. Et tout le monde continuait à mourir. Donc, le Seigneur avait promis que la mort elle-même, qui était le dernier ennemi, vous remarquerez qu'il l'a détruit après Babylone la Grande, après le prophète, après Satan et après le dernier. C'était le dernier ennemi. Donc, il s'est occupé de ça aussi. Et qu'est-ce qu'on avait vu dans les leçons précédentes aussi? Le Seigneur a ramassé, a fait en sorte que tous les êtres humains qui ont vécu sur la terre, qui ont existé, que le Seigneur ressuscite leur corps. Qu'est-ce qu'ils soient des personnes qui ont été régénérées, qui appartiennent au Seigneur, qui sont des chrétiens, ou que ce soit des inconvertis, a procédé au jugement dernier. Tout ça, ces choses-là se sont passées avant le passage qu'on est en train d'étudier. Pas pour rien qu'après, ça dit « puis je vis ». Il a vu quelque chose de nouveau. Toutes les choses, les œuvres du malin, le Seigneur s'est occupé de les détruire. Alors, on va regarder 1 Jean, chapitre 3, verset 8, qui nous dit « Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. » Alors, on vient, c'est ce que dans les leçons précédentes, on a vu, ça c'est fait. Maintenant, le Seigneur n'avait pas juste promis qu'il détruirait les œuvres du diable, il avait promis aussi qu'il construirait un monde dans lequel les élus, les chrétiens, habiteraient un jour de façon permanente. Et ça dit, donc, il avait prophétisé, donc avait, c'est dit depuis l'Ancien Testament, là, qu'il y aurait des nouveaux cieux, nouvelle terre. Donc, c'était prophétisé. Maintenant, on voit que le Seigneur est en train d'accomplir ses promesses. Ésaïe 65, versets 17 à 19. Le Seigneur dit, « Car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées, et elles ne reviendront plus en mémoire. Mais réjouissez-vous à jamais, et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car voici, je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Et je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. » Ça ressemble-tu un petit peu au passage d'aujourd'hui, ça? Bon, pas mal, hein? Puis aussi, ça c'est un exemple de l'Ancien Testament, mais il y avait aussi les promesses qui étaient faites dans le Nouveau. 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. « Or, nous attendons selon sa promesse. » Donc, le Seigneur avait promis qu'il ferait ça. Maintenant, on voit la réalisation. « De nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. » La justice sur cette terre qu'on la cherche, on ne la trouve pas bien, bien. Mais le Seigneur, il dit que là où il va créer ce nouveau ciel, cette nouvelle terre dans laquelle nous tous, qui sommes des véritables chrétiens, on va vivre dedans et la justice va habiter là. Non seulement la justice, mais Dieu lui-même. L'heure de l'accomplissement est arrivée. Voyons maintenant comment sa puissance et sa sagesse vont se manifester. Ils vont se manifester par un nouvel environnement. Il dit dans le verset 1, « Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Très intéressant, parce que ce que le Seigneur est en train de dire, il y a beaucoup, les théologiens ne s'entendent pas sur les commentateurs sur ce que ça veut dire. Par exemple, la mer n'était plus. On va regarder un petit peu les différents problèmes, pas des problèmes, mais différentes difficultés de compréhension qu'on rencontre dans le verset. Est-ce que c'était un anéantissement complet ou tout simplement un renouvellement? Moi, je serais plutôt pour que la Bible parle d'un renouvellement. Donc, c'est pas qu'il détruit complètement, il enlève tout ce qui existait avant, mais il le retravaille. C'est comme s'il reprenait l'ensemble de tous les atomes qui sont compris l'ancien monde et qu'il les retravaille d'une façon complètement nouvelle. Donc, c'est un renouvellement. Le Seigneur permet un renouvellement complet, mais c'est pas juste de la terre, pas juste de tout l'univers. Il y a quelque part, il y a quelque chose là-dedans de grandiose, où on vient manifester la puissance de Dieu, l'intelligence de Dieu, d'être capable de prendre tout ce qui existe puis de le retransformer en la terre nouvelle. Probablement que ça ressemblerait pas mal à ce qu'il avait créé au début. Puis des fois, quand on va en campagne, Quand on va sur le bord des lacs, quand on va sur le bord des montagnes ou quelque part, quand on voit des montagnes, là, c'est impressionnant. La beauté de Dieu transparaît encore de façon très importante dans la nature. N'est-ce pas? Mais imaginez-vous, c'est une nature qui a été vraiment bousculée par les péchés des hommes. Imaginez-vous la même nature sans pollution. Aucune. Des fois, on va sur le bord du lac, regarde donc bien, l'eau est d'accord. C'est encore pas trop pire, c'est pas gris. C'est vrai, il y a des lacs que c'est... J'ai pas analysé chimiquement, là, mais ça a l'air pas trop pollué encore. Mais j'ai vu des rivières dans le bout de Montréal. Oh, je n'aimerais pas de ville, je ne vais pas insulter personne. Mais j'ai vu des villes, quand tu te promènes du long, là, puis tu vois la rivière, puis tu regardes la couleur, là. C'est brun, c'est vert, c'est jaune, c'est tout ce que tu voudras, mais tu ne vois plus à travers de ça, là. Alors, c'est vraiment... Puis la mer, c'est la même chose. On nous montre des fois des reportages sur la quantité de plastique qu'ils ramassent sur l'océan. Le monde jette toute leur cochonnerie là-dedans. On dirait que toute la nature de Dieu est rendue un dépotoir à ciel ouvert. C'est décourageant, quelque part, hein? Et ça vient affecter les poissons, les animaux, et toute la création est détruite, ou du moins affectée, par toutes ces affaires-là. Alors, le nouvel environnement avait été prophétisé, psaume 102, versets 26 et 27. « Tu as jadis fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi, tu subsisteras. » Ils vieilliront tous comme un vêtement, et tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. » Quelque part, le Seigneur parle de quelque chose de grand ici, là. La terre, déjà en soi, là, 25 000 milles, je pense qu'il y a 25 000 milles de circonférence. C'est gros, là, la planète, là. Mais là, c'est pas juste ça, là. On parle des cieux aussi. Les cieux, ça comprend les planètes, ça comprend toute la création au point de vue... C'est énorme. Et le Seigneur, il va tout refaire ça. En neuf. Il va tout remodeler, toute cette affaire-là. Ésaïe, chapitre 34, verset 4. « Toute l'armée des cieux se fondra. Les cieux seront roulés comme un livre, et toute leur armée tombera, comme tombe la feuille de la vigne, comme la feuille morte du figuier. » Un autre verset dans Ésaïe. « Élevez vos yeux vers les cieux, et regardez en bas vers la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre s'usera comme un vêtement, et comme des mouches, ses habitants périront. Mais mon salut durera toujours, et ma justice ne passera point. » On a aussi les paroles du Seigneur Jésus lui-même dans Matthieu, chapitre 24, versets 35 à 37. Le Seigneur ici a averti par rapport à sa parole. Il dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Mais comme il était au jour de Noé, ainsi il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Ça, c'est intéressant, hein? Parce que si on veut vraiment comprendre ce qu'il est en train de dire, il faut aller voir dans l'Ancien Testament comment les hommes vivaient à l'époque de Noé. Puis il dit qu'à la fin des temps, les hommes vont vivre de la façon dont les hommes vivaient à cette époque-là. Puis il dit que c'est là que va arriver l'avènement, ça veut dire son second retour, sa deuxième venue. Elle va arriver au moment où les hommes vont vivre d'une façon comparable à ces gens-là dans l'Ancien Testament. Puis c'était au moment où le mal avait pris toute la place sur la terre, toutes les pensées de l'homme n'étaient tournées que vers le mal. Romains 8, versets 19 à 21, c'est un verset qui peut nous aider à comprendre qu'est-ce que le Seigneur va faire. Il va renouveler la nature parce que on parle de la nature ici comme si elle était un être. Elle soupire. C'est comme si la nature elle-même disait « Pitié, lâchez-moi, je ne suis plus capable d'en prendre. » C'est ça que ça dit dans le Romains 8, versets 19 à 21. En effet, la création attend avec un ardent désir. Comment peut-on dire la création? Parce que Dieu a fait les choses. Même la création, on pourrait dire ici qu'elle souffre des péchés de l'homme. Avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés. Car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause de celui qui l'y a assujettie. C'est qui l'a assujettie? Satan. Dans l'espérance que tu seras aussi délivré de la servitude, de la corruption, pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ça veut dire que Dieu veut reconstruire, veut redonner à sa création quelque chose de nouveau, quelque chose de probablement que ça va ressembler plus à ce que c'était au début. Parce qu'ils ont tout détruit. Même dans le ciel, là, si vous avez déjà vu des reportages là, sur tout ce qu'ils ont envoyé dans le ciel, là, les satellites, apparemment qu'il y a un paquet de satellites qui traînent partout, des déchets qui traînent partout. Bien, le Seigneur va dire un jour, il va faire le ménage là-dedans. Il n'y aura plus de ces cochonneries-là dans le ciel. Donc, à quelque part, c'est un nouvel environnement qui va être renouvelé. Ce renouvellement sera complet et inclura tout l'univers. Il est nécessaire et tout ça va jouer un rôle purificateur. C'est un peu comme purifier quelque chose, c'est d'enlever toutes les souillures, d'enlever toutes les choses indésirables. Le Seigneur va le faire. Bien entendu, il va y avoir quelque chose de mystérieux là-dedans, parce que l'ampleur de ce que le Seigneur est en train de dire qu'il va faire implique ses attributs divins. La toute-puissance. Imaginez-vous. Essayez d'imaginer. Là. La Terre, je ne dis pas comment elle pèse. Là. Il y en a qui ont déjà évalué comment elle pèsait. Ça dit dans 2 Pierre qu'elle va être brûlée. Puis qu'après ça, il va la reconstruire. Puis c'est pas juste la Terre, là, c'est les cieux. Ça veut dire, imaginez-vous la toute-puissance que ça prend pour être capable de faire un ménage sur toute la Terre au complet, incluant l'univers au complet. Il dit qu'il va le faire. On le croit-tu qu'il va le faire? Ben oui, il va le faire. Toute puissance, ça comprend aussi de l'omniscience. Ça veut dire que l'omniscience, ça veut dire que tu sais absolument tout sur toute chose. Alors, est-ce qu'il sait jusqu'à quel point tout ça est pollué, tout ça est souillé à cause des péchés des hommes? Il le sait à la perfection. Alors, l'intervention divine des nouveaux cieux et de la nouvelle terre vient de nous montrer qui Dieu est. Dans ses perfections. Ça prend de la sagesse, ça prend de la vérité, ça prend de la sainteté. Dieu est en train de tout faire le ménage dans ses nouveaux cieux, sa nouvelle terre. Pour qui? Pour nous. Le péché, sous toutes ses formes et sous toutes ses souillures, seront absolument exclus. Ça fait tellement drôle d'entendre une chose pareille, parce qu'on est tellement habitué de vivre et d'entendre à tous les jours des choses extraordinairement méchantes qui se produisent sur toute la terre, au complet, sans arrêt, depuis le début. On est habitué de vivre ça. Juste l'idée de penser qu'un jour, on pourrait vivre et qu'il n'y aurait plus rien de ça qui existe, il y a quelque chose de fascinant là-dedans, puis parce qu'on est tellement peu habitué à l'idée, puis on a tellement peu expérimenté aussi cette chose-là, qu'à quelque part, on a de la misère à imaginer que ça s'en vient. Et là, quand j'ai lu aussi, ça dit « la mer n'était plus ». Il refait une nouvelle création, une nouvelle terre, puis il dit qu'il n'y aura plus de mer. Alors, quand tu regardes les commentateurs, là, il y a deux positions principales. Une qui dit que la mer, c'est le côté symbolique de la mer. Dans les Écritures, la mer est souvent utilisée comme un symbole des peuples, des nations sans Dieu. Parce que c'est grouillant, c'est instable. Alors, on va regarder ça. Alors, vraiment, les commentateurs interprètent cette partie du verset-là de façon très différente, dépendamment Si l'on voit la phrase comme étant littérale, la mer, l'eau, l'océan, ou si on l'interprète, la mer, comme étant un symbole des peuples et des nations sans Dieu. Si nous choisissons l'interprétation littérale, tu dis, OK, il n'y aura pas de mer, il n'y aura plus de d'eau. Bon. Il faut alors répondre à la question, pourquoi la mer n'existerait-elle plus? Si nous croyons qu'il s'agit ici de symbolisme, les cieux et la terre sont-ils également symboliques? Si on choisit symbolique, on se dit, bien, quand il dit qu'il va faire une nouvelle terre, un nouveau ciel, il parle-tu de symbole encore? Bien, s'il parle de réalité. Alors, je vais vous présenter un petit peu les principaux arguments des deux écoles, puis on fera notre choix. Alors, je vous présente les très sommairement. Quand je vous dis très sommairement, là, c'est que quand vous prenez les commentaires du livre d'Apocalypse, puis qu'ils développent ça, là, il y en a qui en ont 25-30 pages. Là. Puis il y a plusieurs commentaires, puis ils ne disent pas nécessairement la même chose. Alors, quand je dis très sommairement, là, c'est vraiment les principales idées. Alors, dans les Saintes Écritures, l'image de la mer est souvent utilisée pour représenter des peuples, des nations et des humains opposés à Dieu. On va voir tantôt des versets qui démontrent ça. Puis j'aurais pu vous en sortir beaucoup, mais je vous en ai sorti juste un ou deux pour montrer que c'est vrai que la Bible utilise souvent l'image des peuples, des nations sans Dieu comme étant la mer. La Bible utilise la mer et ses caractéristiques pour la comparer à l'humanité agitée et éloignée de Dieu. La mer est soumise à l'action du vent, elle est agitée, et cela se manifeste par le déferlement de vagues tumultueuses et de grondements des eaux et l'instabilité. C'est vrai, la mer, hein? Une journée c'est bien calme, le lendemain, les tempêtes, là, les bateaux n'enlèvent, la mer c'est instable. Juste pour comprendre, on va aller chercher deux versets dans Ésaïe pour montrer que c'est pas une invention de mon esprit, ça, là, que c'est vraiment dans la Bible. Ésaïe, chapitre 17, versets 12 et 13. Ici, c'est la version sommaire. Oh, quel mugissement de peuples innombrables et qui mugissent comme mugit la mer! Et quel grondement des nations! Semblable au grondement des eaux impétueuses. Les nations font entendre des grondements pareils à ceux des grandes eaux. C'est vrai, des fois, quand on regarde tout ce qui se passe sur la terre, ça bouge partout, c'est violent, c'est instable. Alors, c'est pas pour rien que les Écritures utilisent l'image de la mer comme l'image de l'instabilité des nations et de tout ça. Puis dans le verset Ésaïe 57, verset 20, dans la version Sterval, on a l'idée suivante. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, dont les eaux rejettent de la vase et du limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Là, la vase et le limon, on sait que ça bouge beaucoup et ça charrie des impuretés, des choses indésirables. Maintenant, ça, c'est l'école symbolique qui dit que ça voudrait dire ça, qu'il n'y a plus de mer. Maintenant, l'école littérale. Leur argument est aussi puissant et intéressant, puisque les cieux et la terre physiques seront renouvelés après avoir été brûlés par le feu. Il est possible que l'absence de mer physique dans la nouvelle création soit plausible. Parce que ça dit, dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 5 à 7, « Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et dans la ruine des hommes impies. » Donc, c'est possible aussi que ça puisse vouloir dire tout simplement qu'il n'y aura pas de mer Et là, quand on regarde les arguments, ben, ils disent tout que ça. Ils reviennent encore un petit peu au symbolisme, en voulant dire s'il n'y a pas de mer, c'est parce que ça détruit l'éloignement qu'il y a entre les hommes. Ça crée de l'éloignement entre les hommes, hein, la mer. Ils reviennent pas mal toujours à l'idée de... Allez, go! Moi, je serais porté à penser que ça peut être les deux. C'est pas bien, bien plus grave que ça. Mais c'est intéressant parce que des fois, on lit et on porte même pas attention à ça. On lit « La mer n'était plus », on se pose même pas la question ben, « Pourquoi elle n'existe plus? » Je sais que les Écritures, là, plus on les lit avec attention et en questionnant le texte, plus on se rend compte que Dieu veut nous dire des choses. Dieu veut nous dire des choses par ça, là, et la mer n'était plus. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est là qu'on voit que c'est pas si facile que ça de répondre, parce qu'il y en a qui répondent « c'est littéral », d'autres qui disent « c'est symbolique ». Alors, on ne pense pas assez savant pour trancher. Deuxième point qu'on va regarder, c'est le nouvel émerveillement. Si Dieu nous place dans un nouvel environnement, ça va provoquer, chez ceux qui vont habiter cet endroit-là, quelque chose, on va s'émerveiller devant ce que de la nouvelle création que Dieu a faite. C'est intéressant de lire le verset parce que là-dedans, il y a vraiment des trésors. Là. On pourrait étudier longtemps, juste avec les versets 2 et 3, là, en allant chercher ce que c'est la Jérusalem terrestre comparée à la Jérusalem céleste, qu'est-ce que c'est le tabernacle qui existait à l'époque dans l'Exode, et qu'est-ce que c'est le tabernacle de Dieu qui veut parler maintenant. Est-ce qu'on parle encore d'une tente, là, avec des choses à l'intérieur, ou si on prend l'image de l'Ancien Testament pour la transposer dans le Nouveau avec une idée complètement nouvelle, celle de la présence de Dieu. Parce que c'était ça, l'Ancien Testament, dans le tabernacle, la présence de Dieu. Dans le verset 2 et 3, on les relit. « Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. » Qu'est-ce que ça sonne dans notre esprit? L'Église s'est préparée. Ça sonne ça, hein? Verset 3, « Et j'entendis une grande voix du ciel. » Pour que le Seigneur vienne nous dire ici une grande voix du ciel, c'est intéressant, qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu. » Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce qui est dit. Là. Alors, je pense qui était nécessaire, parce que c'est ça que j'ai lu les deux affaires, les deux idées principales qui sortent là-dedans, c'est la Nouvelle Jérusalem puis le tabernacle de Dieu. Bon, à quelque part, je pense qu'il faut que tu y ailles chercher un petit peu, je ne sais pas si vous êtes familier beaucoup avec les idées des types et des antitypes. Je pense que c'est nécessaire ici de prendre ces idées-là de théologie et de les amener dans le texte d'aujourd'hui pour la compréhension. J'ai voulu vous rappeler qu'est-ce que c'est un type et qu'est-ce que c'est un antitype. Parce que si vous avez le moindrement d'études de théologie, c'est des notions qui vont revenir d'une façon constante tout au long de votre étude. J'ai deux livres à maison, toutes les deux des briques, de 1000 pages chaque, juste sur le sujet de la typologie. Autrement dit, Dieu parle par des types et l'accomplissement se fait dans le Nouveau Testament et il y a des règles à tout ça qu'il faut suivre si on veut interpréter les choses correctement. Maintenant, on va faire, parce que le type, c'est toujours dans l'Ancien Testament. L'antitype, c'est toujours dans le Nouveau. Autrement dit, le Seigneur se sert de quelque chose de l'Ancien Testament pour nous faire réaliser que l'accomplissement de ce qu'il veut nous enseigner dans l'Ancien s'accomplit dans le Nouveau. Très important de saisir ça. Parce qu'il y a bien des choses qu'on comprend quand on saisit ça. Alors, on va commencer par une définition. Un type, c'est une notion de théologie. Il nous aide à comprendre les enseignements de l'Ancien Testament qui comprennent des symboles qui pointent vers leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y en a plusieurs, je pense, qui étaient ici, quand on a fait une très, très, très brève étude sur le tabernacle avec, on avait présenté des diapositives, je pense que c'était le mercredi. Quand vous commencez à étudier le tabernacle, tout parle de Christ dans le tabernacle. Moi, je ne sais pas, j'ai fait une étude approfondie en tant que j'étais à Rouyn-Noranda sur le tabernacle. Exode, chapitre 25, aller jusqu'à chapitre 40. Ça m'a pris quelque chose comme 40 à 50 sermons. Tout parle de Jésus-Christ dans le tabernacle. Tout pointe d'une façon ou d'une autre dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Si on fait juste lire, moi je me souviens de la première fois que j'ai lu les Écritures, puis je suis tombé sur, à partir du chapitre 25, aller jusqu'au chapitre 40, je lisais ça, les planches en bois, la tente, les trois couvertures, avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Moi, vous dites, bien franchement, j'ai fini ma lecture, je me suis dit, je comprends rien. C'est vrai que je comprends rien. Pourquoi? Parce que je ne cherchais pas Christ dans ces symboles-là. Puis c'est ça un type, c'est quelque chose de l'Ancien Testament que le Seigneur se sert pour nous enseigner quelque chose dont l'accomplissement se trouve dans le Nouveau Testament, l'antitype. Alors, on va reviser un petit peu cette notion-là parce que ça nous aide à comprendre le passage qu'on étudie aujourd'hui. Un type, si on donne une définition brève, là, on pourrait aller chercher des briques pour étudier ça, mais juste une définition brève. Un type, c'est une personne, un événement ou une chose de l'Ancien Testament. Alors ça, il faut comprendre ça. Un type, c'est l'Ancien Testament. Ayant une réalité historique. Ça veut dire que si vous prenez, disons, une personne, disons Aaron ou Melchisédek, il faut que cette personne-là ait existé historiquement, là. Ayant une réalité historique qui comporte une intention divine. Autrement dit, toutes ces affaires-là, une personne, une chose ou un événement, Dieu voulait, il avait une intention divine de nous faire pointer, de nous faire réaliser que c'était une préfiguration de Jésus-Christ qui était à venir. Parce qu'on parle de l'Ancien Testament, là. Comporte une intention divine, celle de préfigurer. Qui comporte aussi un élément prophétique et dont l'accomplissement dans le Nouveau Testament manifeste la supériorité de l'antitype et qui est désigné comme tel dans le Nouveau Testament. On pourra passer beaucoup de temps à revenir sur la définition de ça. Autrement dit, c'est quelque chose dans l'Ancien Testament, une personne, un événement ou une chose. Avec une intention divine, Dieu voulait enseigner quelque chose sur Jésus-Christ à venir. Et l'Ancien Testament, les choses qui sont utilisées, on appelle ça un type. Puis la chose, quand c'est rendu dans le Nouveau Testament, on appelle ça un antitype. Autrement dit, il faut que tu t'habitues à lire les Écritures en cherchant Christ. Parce qu'il est partout dans l'Ancien Testament. Si tu te mets, par exemple, lis le livre de Lévitique. Vous en souvenez-vous la première fois que vous avez lu le livre de Lévitique? Les offrandes de farine, puis les offrandes de ci, puis les offrandes de ça. Tu dis ça, puis tu ne comprends rien. Tant que tu n'as pas fait l'association que le Seigneur est en train de te parler de quelque chose par rapport à Christ. Puis quand tu fais les liens, là, ça devient lumineux et super intéressant. On prend quelques exemples. Là, on ne rentre pas dans les détails, comme je vous dis, il y a des briques qui existent là-dessus. Mais juste prendre deux personnages. Aaron était quoi, lui, dans l'Ancien Testament? Le souverain sacrificateur. Est-ce que le Seigneur voulait enseigner quelque chose sur la notion de souverain sacrificateur qui pointait vers le... Qui est le nouveau souverain sacrificateur dans le Nouveau Testament? Jésus. Jésus. Mais Melchisédek, qu'on rencontre dans l'Ancien Testament, après que Abraham est allé à la guerre, il est revenu, il a rencontré Melchisédek. Sur Melchisédek, là, on pourra faire 10-15 sermons. Parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes par rapport à Melchisédek. Parce que le Seigneur se sert du personnage dans l'Ancien Testament avec une réalité historique dans le but de nous faire comprendre quelque chose sur Christ dans le Nouveau Testament. Il y a des similarités C'est ça qu'il faut comprendre, parce que plus on comprend les types de l'Ancien Testament, plus à chaque fois qu'on lit une page, tout ce qu'on voit, c'est qu'on voit Christ partout. Puis c'est ça qu'il faut faire, parce que l'Ancien Testament, c'était le but, c'était de nous montrer Jésus-Christ. Je suis un angle ou je suis un autre. Donc, on prend l'exemple de deux personnages, mais il y en a bien plus que deux, là. J'en donne deux. Mais après ça, on prend des événements. La Pâque juive. Quand on prend le... Aujourd'hui, on va prendre le repas du Seigneur, là. On fait-tu référence à l'Ancien Testament? Ben oui, la Pâque juive. Dans Exode 12, où le Seigneur disait qu'il fallait que tu prennes un agneau, qu'il soit rôti, il fallait qu'il se mette avec des herbes. Tout ça, ça pointait vers Jésus-Christ. Si tu lis Exode 12, puis tu ne vois pas Christ dans Exode 12, tu manques le bateau, comme on dit. La Pâque juive, la fête de la Pentecôte, qui existait pour les Juifs, la fête des trompettes, la fête des tabernacles, le sabbat. On en parle dans Hébreux du sabbat. Les choses, maintenant. Là, c'est important parce qu'on rentre dans le domaine qu'on va étudier aujourd'hui. Le tabernacle. S'il y a un sujet intéressant à étudier, c'est bien celui du tabernacle. Parce que plus vous allez faire la relation entre ce sujet-là dans l'Ancien Testament et qui enseigne les choses sur Christ, vous allez être ébloui. Vous allez être ébloui. Si vous voyez juste des planches, des toiles l'une par-dessus l'autre, vous manquez le bateau. Alors, le tabernacle, il y a aussi la ville de Jérusalem. Et il y a aussi le rideau qui séparait le Saint du Saint des Saints. Pourquoi? Regarde, là, on prend quelque chose dans l'Ancien Testament. On parle du tabernacle. Quand Christ est mort, ça dit que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Ça, c'était sur la terre. Mais qu'est-ce qui se passait dans la réalité avec Jésus-Christ? C'était que sa mort faisait en sorte que nous, on pouvait rentrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans la partie sainte de sa personne. Sa mort faisait en sorte que c'était une ouverture. On pouvait maintenant entrer dans la présence de Dieu. C'est d'une richesse, c'est incroyable. Après ça, il y a l'offrande de l'Holocauste dans Lévitique 1, le fleur de farine, sacrifice de prospérité, Lévitique 3, l'offrande des prospérités pour le péché, Lévitique 4. Lévitique 4, là, si vous lisez Lévitique, vous n'avez pas Jésus en tête, là, vous allez trouver ça ennuyant à mourir. Puis, c'est de valeur qu'on dise ça des chrétiens, là, parce que la Bible devrait nous inspirer que de l'émerveillement. Elle ne va le faire que lorsque vous commencez à questionner l'Ancien Testament et à voir Jésus partout. Parce que c'est ça. Il est partout. Je vous ai donné deux livres que j'ai à la maison, pour ça que je les ai mis là. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je vous les recommande extrêmement chaleureusement et extrêmement... C'est des chefs-d'œuvre. Un, c'est Benjamin Keach. Benjamin Keach est un pasteur baptiste qui a écrit une de ses briques sur ce sujet-là, les types et les tiers-disciples. Alors, ça s'appelle « Preaching from the Types and the Metaphors of the Bible ». Puis l'autre, c'est Patrick Furbane. Patrick Furbane, c'est un réformé qui a écrit sur le même sujet, « Typology of Scripture ». Deux livres que si vous voulez commencer à rentrer dans le détail de tout ça, mais plus vous allez rentrer dans le détail de ça, plus vous allez jouir de votre lecture de l'Ancien Testament. Ça, je vous le garantis. Donc, l'émerveillement de la Nouvelle Jérusalem, verset 2. Plusieurs exégètes comprennent la signification étymologique du mot Jérusalem de la manière suivante. Le mot comprend deux parties. Jéru, qui veut dire habitation ou ville. Puis Salem, qui veut dire paix. Habitation de la paix. Ça, c'était pour la Jérusalem terrestre. Mais quand le Seigneur dit qu'elle descend en haut, préparée d'auprès de Dieu de lui-même, pensez-vous qu'il parle encore d'une ville bâtie avec des pierres? Qu'est-ce qu'on est, nous? On est des pierres. Il a construit La Nouvelle Jérusalem, on est la Nouvelle Jérusalem. Elle descend d'en haut, préparée par Dieu, comme une fiancée s'est préparée pour aller rencontrer son époux. Alors, cette ville, entre guillemets, descend directement de Dieu. Elle est donc sainte, glorieuse et caractérisée par la paix. Est-ce qu'actuellement, dans la Jérusalem terrestre, vous voyez beaucoup de paix?
Non.
Il y a énormément d'obstination et d'hostilité et de difficultés dans cette région de la terre. Il va en avoir jusqu'à la fin aussi, parce que le Seigneur l'avait dit. Alors, c'était à l'époque la capitale d'Israël, ça l'est encore, le siège du trône de David. David était quoi? Il était roi, et c'était là qu'il régnait. C'était l'endroit aussi où les Israélites avaient un culte centralisé au moyen du temple. C'était à ce moment-là une théocratie. Pas une démocratie, une théo. Théo, c'est Dieu. Cratie, c'est le pouvoir par Dieu. Et là, on va aller voir dans le Nouveau Testament si c'est vrai que lorsqu'on parle de Jérusalem, est-ce que dans le Nouveau Testament, on parle de la Jérusalem autre que la ville terrestre?
Ben oui.
Oui ou non? Oui? Ben oui. OK, allons dans Galates, chapitre 4, versets 22 à 26. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de l'esclave et l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en fonction, en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Ici, il nous facilite la tâche parce qu'il nous le dit. Ces choses sont allégoriques. Car ces deux femmes sont deux alliances. Tu sais, il parle de deux femmes, mais il dit que c'est deux alliances. L'une du mont Sina, qui enfante des esclaves, et c'est Agar. Car Agar signifie le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem d'à présent. Autrement dit, qui est en effet esclave avec ses enfants. Les personnes juives actuellement qui sont dans Jérusalem, qui n'ont pas compris le Christ, là, sont encore dans l'ancien système, sont encore esclaves avec leurs enfants, comme ça dit dans le texte. Mais la Jérusalem d'en haut, de quoi qu'on parle? Y avait-tu une Jérusalem en bas, puis une en haut? Il parle de la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, d'en haut, est libre, et c'est elle qui est la mère de nous tous. Un autre verset dans le Nouveau Testament qui parle de la Jérusalem d'en haut comme étant l'Église. Hébreux, chapitre 11, verset 10 et verset 16. Ici, dans le contexte, ça parlait d'Abraham, qui est le père des croyants. Quand il dit « il attendait », là, c'est Abraham. « Car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. » Imaginez-vous, une ville, aujourd'hui, disons les villes les plus belles du monde, je ne sais pas quelle ville aujourd'hui on pourrait considérer qui est la plus belle du monde, mais dans ce temps-là, on va être porté à admirer l'architecte, le fondateur. Ici, il parle de la ville que Dieu veut nous... C'est nous, la ville. Il dit qu'il est l'architecte. On peut-tu trouver un meilleur architecte que le Seigneur lui-même? Et le fondateur. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et Apocalypse, versets 3 et 12, et on va terminer à cet endroit-là, on terminera la semaine prochaine, il dit, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem. » Il faut faire les liens entre tous ces passages-là et ce qu'on est en train d'étudier. « Qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. » Ou la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ça commence à ressembler pas mal à ce qu'on est en train de lire aujourd'hui, là. d'Apocalypse 21. Alors, on va arrêter là pour le moment et on continuera la semaine prochaine parce qu'il nous reste tout le côté... on pourrait aller beaucoup plus loin dans la Jérusalem et on pourrait aller encore beaucoup plus loin aussi dans le tabernacle de Dieu à la fois terrestre versus le tabernacle de Dieu céleste. Alors, on va arrêter là.